Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est avec vous Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Nous ne sommes pas confrontés à ce stade à une hausse exponentielle de l'épidémie. Jean Castex a donc confirmé hier soir que seul le Pas-de-Calais serait reconfiné pour les 4 prochains week-ends. 3 départements, les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube, rejoignent la liste rouge des surveillances renforcées. Mais un point a fait tiquer le Premier ministre et son ministre de la Santé. Le manque toujours de vaccination chez les soignants.
On vous en parlait ici même, hein, il y a 2 jours, ils ne sont qu'un tiers à être vaccinés. Le Covid est la première maladie nosocomiale aujourd'hui. Jean-Rémy Baudeau, le gouvernement envisage donc de rendre obligatoire ce vaccin chez les blouses blanches ?
Alors officiellement, c'est uniquement une piste. Le sujet a été abordé lors de récentes réunions à l'Élysée, mais plusieurs sources laissent entendre que le cœur du président ne balance plus sur cette question. La vaccination obligatoire des soignants est actuellement sur la table. La raison est simple, comment expliquer aux Français que certains réfrigérateurs sont pleins de vaccins pour le personnel médical, alors même que d'autres populations en manquent ? Seul un soignant sur 3 est vacciné, ça n'est pas normal, a déploré hier soir Jean Castex. Au ministère de la Santé, on a bien noté la défiance qui s'était installée concernant le vaccin AstraZeneca, ses éventuels effets secondaires. Mais le temps de la réticence est derrière nous, voilà ce que veut croire Olivier Véran, qui va adresser aujourd'hui une lettre aux soignants pour les remercier de leur engagement et leur demander instamment de se faire vacciner. Encore un peu de pédagogie avant une méthode plus forte. Le ministre de la Santé n'exclut pas une saisine du Conseil consultatif national d'éthique sur le sujet. Une étape de plus vers une possible obligation vaccinale pour les soignants.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Alors que répondent justement ceux qui sont en première ligne depuis des mois dans les hôpitaux ou les EHPAD ? Il y a ceux qui disent attendre le vaccin Pfizer, plus efficace que l'AstraZeneca. Et puis ceux qui n'ont toujours pas confiance, comme Valérie, infirmière dans un EHPAD.
Je suis pas du tout anti-vaccin, je vous dis, nous avons tous nos vaccins un jour, mais ce vaccin qui, on n'a pas de recul, donc oui, moi je sais pas dans 10, 15 ans quels vont être les effets sur notre santé, sur notre système immunitaire. Et je préfère, tant pis, jouer à pile ou face et peut-être risquer ma vie, mais autant professeur qu'il soit, je ne pense pas qu'ils peuvent nous dire dans 10 ans, ce vaccin aura cet effet-là.
Oui, enfin pile ou face, le jeu de hasard. 50-50, c'est aussi le jeu de hasard avec la santé des autres. En l'occurrence, faut aussi le souligner. Pour accélérer la campagne dans la population générale, les pharmaciens pourront vacciner directement en officine d'ici 10 jours et des centres de vaccination éphémères seront mis sur pied dès ce week-end.
135 000 doses supplémentaires envoyées aussi dans des départements prioritaires. L'exécutif veut vacciner 30 millions de personnes d'ici l'été, soit les 2/3 des adultes. C'est 10 fois plus qu'aujourd'hui.
Et on va reparler à 8h15. Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'industrie, en charge justement du déploiement logistique de la vaccination. Elle répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Tandis que la guerre des doses se poursuit à l'échelle mondiale.
Avec cette première en Europe, l'Italie bloque l'exportation vers l'Australie de milliers de doses AstraZeneca produites près de Rome. L'Union européenne montre les dents face à la pénurie et au retard d'approvisionnement du laboratoire anglo-suédois.
7h04 sur Europe 1. 12 interpellations dans le quartier de la Duchère à Lyon après des heurts hier soir entre des jeunes et la police.
Plusieurs voitures incendiées. Ces jeunes accusent les agents d'avoir causé l'accident de scooter d'un adolescent de 13 ans qui circulait sans casque mercredi. Il se trouve dans le coma. Des renforts policiers doivent aussi être envoyés à Beauvais, dans l'Oise, où le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sont attendus ce matin. 3 policiers y ont été blessés après des échauffourées sur fond de lutte contre le trafic de drogue en début de semaine. Ça s'est passé dans le quartier d'Argentine, où s'est rendu Nicolas Feldman.
Les vidéos tournent encore sur tous les téléphones. Des policiers visés par des tirs de mortiers d'artifice. Un peu plus loin, une voiture est en feu.
Ici. Ça parle partout, télé, réseau, tout ce que vous voulez.
Ça arrive pas souvent quand même, c'est un grand truc quoi.
Et pourtant, ces jeunes ne semblent pas surpris.
Ici, il y a beaucoup de ventes de drogue, hein. Ça circule beaucoup.
Maintenant, tu peux voir une personne, elle est là, juste à côté de toi, elle va échanger un pochon, qu'avant, c'était plus caché.
Les policiers, ils empêchent, et du coup, voilà, c'est les jeunes, ils s'en prennent à eux, et voilà.
Au pied des barres d'immeubles, les voitures calcinées ont disparu. À la place, des cars de CRS patrouillent. 60 gendarmes ont été dépêchés cette semaine à Beauvais. Mohamed Betraoui, responsable des centres sociaux.
Cette présence, elle s'est fait ressentir et une sécurisation qui est plus importante aujourd'hui. Ça dénote aussi que malheureusement, sur le territoire, on aimerait espérer davantage de forces de police à Beauvais. Plus de police, ça veut dire plus de proximité, ça veut dire plus de le sentiment d'être en sécurité. vivre sereinement avec sa famille, etc.
Pour sécuriser ses quartiers, la maire de Beauvais réclame une vingtaine de policiers supplémentaires.
Nicolas Feldman depuis Beauvais pour Europe 1.
L'image s'annonce historique. Le pape François entame aujourd'hui sa visite en Irak.
C'est la toute première fois qu'un souverain pontife se rend dans le pays, considéré comme l'un des berceaux du christianisme. Visite sous haute sécurité, à la rencontre des chrétiens d'Orient, mais aussi des figures de l'islam chiite. Jean-Sébastien Soldaini est notre envoyé spécial à Erbil.
Le pape se rend samedi au Vatican des chiites, la ville sainte de Najaf, là où réside le plus souvent loin des regards l'ayatollah Ali Sistani, le plus haut dignitaire de cette branche de l'islam. Une rencontre en tête-à-tête organisée dans la plus grande discrétion, avec tout de même trois allers-retours d'une délégation vaticane. François poursuit là son entreprise pour installer un dialogue avec toutes les autorités de l'islam, mais attention, le Vatican prévient, il n'y aura probablement pas de déclaration commune. Il faut laisser les deux hommes s'apprivoiser avec ce premier entretien privé. Dimanche, ce sera différent devant les fidèles, même si le pape ne pourra pas profiter d'un bain de foule. Les autorités locales mettent en avant le risque de contamination au Covid. Il donnera tout de même une grand-messe dans le stade d'Erbil, dont la capacité est réduite de 40 000 à 10 000 places, là encore pour respecter les distances physiques. Il n'y aura pas de papa mobile, c'est dans une berline allemande blindée que François devrait faire son entrée dans le stade. Une voiture sans vitre teintée pour que les fidèles puissent l'apercevoir. Erbil, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Les Nations Unies appellent à un embargo mondial sur les livraisons d'armes à la Birmanie. Réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui, alors que 54 personnes sont mortes depuis un mois dans les manifestations réprimées contre le coup d'État. Inquiétude aussi au Sénégal, où un manifestant est mort hier en Casamance, c'est dans le sud du pays, où l'opposition proteste, vous l'entendez, contre l'arrestation d'un de ses leaders, Ousmane Sonko. Les autorités ont suspendu deux chaînes de télévision privées pour avoir relayé les images de ces violences dans les rues.
Un procès pas comme les autres au volet judiciaire à Toulouse aujourd'hui.
Quand un ancien haut responsable des impôts comparaît avec son épouse pour corruption et prise illégale d'intérêts, suspecté d'avoir prévenu ses amis, restaurateurs ou experts comptables qu'ils allaient subir un contrôle fiscal, Benjamin Peter, ce sont ses propres subordonnés qui l'ont finalement débusqué.
Ils ne s'attendaient pas à ça. Qu'en fin 2018, ils enquêtent sur une fraude massive de plusieurs restaurants du centre-ville, les inspecteurs des impôts ont la surprise de tomber sur des échanges de mails et de textos entre un restaurateur et leur propre patron, Marc Mainviel, le directeur départemental adjoint du pôle fiscal. Le ton est amical, on se tutoie, au point qu'ils soupçonnent leur supérieur et son épouse, elle aussi haut fonctionnaire des impôts, et qui avaient leurs habitudes dans cet établissement, d'avoir prévenu le chef d'entreprise de l'imminence d'un contrôle. Mais pour l'avocat du couple, maître Laurent Boguet, rien ne permet de l'affirmer.
Ils n'ont jamais fourni le moindre renseignement sur le calendrier de la procédure fiscale qui était menée à l'encontre de ce restaurateur. Il appartiendra à la justice d'établir si un administrateur des finances publiques, qui éprouve comme tout à chacun le besoin d'aller se restaurer tous les midis, parfois en compagnie de son épouse, a la possibilité ou pas d'entretenir des relations d'estime et non pas des relations amicales avec le restaurateur en question.
L'enquête va révéler qu'ils auraient également avantagé un ami expert comptable lors d'un contrôle fiscal. La défense, elle, dénonce une enquête à charge et va demander dès le début de l'audience tout à l'heure l'ouverture d'une information judiciaire. À Toulouse, Benjamin Peter, Europe 1.
Enfin, on pourrait l'appeler, Mathieu, le voilier balai, le dernier concurrent du Vendée Globe attendu aujourd'hui au Sable d'Olonne, plus d'un mois après les vainqueurs. C'est un Finlandais, il s'appelle Harri Usela et il aura donc passé 116 jours, Cyril de la Morinerie, 116 jours seul en mer.
Et vous savez ce qu'il fait dans la vie ?
Non.
Il est pilote de ligne.
Eh ben. Et il est... Ça doit le changer.
Non, non, mais il est aux commandes d'un Airbus 350 de la compagnie Finnair. Alors ça, c'est dans la vie. Hein.
Ça va plus vite.
Ça va plus vite, effectivement, mais il y a des turbulences, peut-être un peu moins fortes que sur un voilier. En tout cas, c'est un marin typique de 58 ans qui a découvert la voile sur le tard à l'âge adulte. Il a fait quelques courses, hein, notamment la route du Rhum, mais c'est un néophyte dans ce Vendée Globe. Le Finlandais barbu au crâne chauve, c'est plutôt bien débrouillé, la preuve, même s'il termine son périple exténué, le directeur de course, Jacques Carès, est admiratif.
J'ai l'impression qu'il navigue avec son bateau comme sur un Airbus, c'est-à-dire qu'il est très préparé, il n'est pas dans l'excès, il est toujours à se positionner habilement mais sans se mettre en difficulté. Je pense que son bateau va revenir dans un état parfait, à mon sens. Et c'est vrai que le personnage est finalement assez fascinant parce qu'il a le même ton de voix du début jusqu'à la fin. Et c'est un personnage attachant.
Harri Usela est attendu aujourd'hui entre 7h30 et 13h30 sur le ponton des Sables d'Olonne. Il va entrer dans la légende du sport finlandais en devenant le premier marin de son pays à boucler un Vendée Globe. D'ores et déjà, Helsinki, c'est une star. le Nicolas Canteloup local l'a déjà intégré à l'un de ses sketchs. Oui, oui.
Merci beaucoup. Donc, oui, je pense que c'est la postérité. On est dans les sketchs de Nicolas Canteloup.
Fait le finnois.
Ouais. Y compris en Finlande. C'est, oui, on peut passer à autre chose.
Et bravo à lui, quand même. Mine de rien, je ne savais pas qu'on avait encore des concurrents sur le Vendée Globe. On va suivre son arrivée. Merci, Théo Manval. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.